Paul Jean Hérault, bonjour. On va commencer cette interview par une première question. D'où te vient ton surnom littéraire, justement, de Paul Jean Hérault ?
C'est tout simple, dans la mesure où j'ai commencé par faire de l'espionnage. J'étais à ce moment-là journaliste à Paris Presse, et mes petits copains du service politique étrangère me donnaient des informations sur ce qu'ils ne pouvaient pas écrire, sur ce qui se passait dans le monde, mais dont ils ne pouvaient pas dire un mot. Je traitais le sujet, mais c'était plus ou moins... Enfin, ils m'avaient conseillé d'être assez discret. Donc j'avais choisi un pseudo pour qu'on ne remonte pas à moi. Et en l'occurrence, Hérault, c'est le surnom de ma grand-mère paternelle. Donc, c'est pas le surnom, j'ai dit le surnom. C'était le nom.
C'était son nom de famille.
Oui. Donc j'ai choisi, et Paul Jean, ce sont mes second et troisième prénoms.
Ah oui, effectivement, donc on reste dans le...
Il n'y a pas de mystère.
D'accord. Alors, on peut considérer que tu es un écrivain populaire, ayant écrit énormément de livres. Tu es né en 1934, si je ne dis pas de bêtises, le 22 septembre 34 à Paris, dans le 14e arrondissement.
Eh oui.
Ce qui ne rajeunit guère maintenant. Donc, 77 ans plus tard, tu as écrit effectivement quelques ouvrages d'espionnage parus au Fleuve Noir.
Oui.
Et ensuite, une très longue carrière dans la science-fiction. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dès le départ au niveau de la SF ?
Je m'emmerdais dans l'espionnage. L'espionnage, c'est pour faire un bouquin d'espionnage, tu fais un cocktail. Il y a de l'action, de la politique, un petit peu de fesses, et puis tu secoues ça dans le shaker, et ça te fait un roman d'espionnage. Mais ils se ressemblent terriblement tous. Même au-delà de la technique purement espionnage, que je connaissais un petit peu, pour l'avoir un peu pratiqué, c'est pas la part du shaker est la plus forte de loin. Donc je m'ennuyais. Et par ailleurs, j'ai écrit en 68 un bouquin d'espionnage avant août 68, entre fin mai, puisque j'étais dans la rue, enfin pour en qualité de reporter, et août. J'ai écrit un bouquin où j'imaginais que les Palestiniens prenaient le pouvoir en Jordanie pour avoir une base arrière contre Israël. Et manque de bol, il y a eu une révolution en Jordanie où ils ont effectivement tenté de prendre le pouvoir. Et le fleuve a refusé mon bouquin en me disant que j'avais été dépassé par l'actualité.
Donc une œuvre de politique fiction qui est devenue réelle.
Ouais. Donc ça m'a déçu, Et puis, le fleuve, à l'époque, envoyait à chaque auteur, chaque mois, un colis de toutes les parutions du fleuve. Il y avait donc des bouquins de SF, et j'ai commencé à lire quelques bouquins de SF. Je n'ai pas accroché tout de suite, parce que il y avait à l'époque des gens qui étaient un petit peu vieux, avec un style un petit peu vieux, et ça ne m'amusait pas. Puis je suis tombé sur Peter Randa, et là... Là, j'ai trouvé un gars qui avait une vraie plume, une belle imagination, puisqu'il refaisait sans cesse la même histoire. Mais on le voyait, on le savait, mais on était pris quand même par l'histoire, tellement c'était bien écrit. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Et j'ai écrit le premier de la série des Cales, qui m'est venu, dont j'ai eu l'idée, en voyant La planète des singes au cinéma. Cette scène à la fin où tu le vois galoper sur un cheval et où il voit le sommet du flambeau de la statue de la liberté émerger du sable. Et il dit « Merde, ils l'ont fait » ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, de cette phrase, cette scène, j'ai eu l'idée du personnage. Souvent, je pars d'un personnage et ça donne une histoire. J'ai d'abord un personnage dans la tête. Je le fais agir et c'est lui qui me guide finalement. c'est lui qui mine. Je ne savais pas en commençant le rescapé de la Terre, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. C'était le personnage qui m'intéressait. C'est tout.
Alors ça, c'est un aspect qu'on retrouve très souvent, voire même tout le temps, dans la totalité de ton œuvre, c'est justement, pour ainsi dire, le degré, j'allais dire, non pas de réalisme, mais l'amour que tu as porté, que tu insuffles et que tu mets dans tes personnages. On a vraiment le sentiment de tomber sur des êtres humains faillibles, avec des émotions, des colères, qui arrivent à se surprendre eux-mêmes. Alors, est-ce que tu mets une partie de toi dans tes persos? Est-ce que tu t'amuses finalement à créer des formes, soit d'alter ego, soit de personnages que tu aimerais bien rencontrer dans la vie de tous les jours? Et comment fonctionne justement la création de ces personnages? Je pense à Cal de Terre, mais aussi au sergent pilote d'Urban, qui reste pour ma part une œuvre qui m'a énormément marqué en tant qu'adolescent, mais aussi à d'autres persos comme le dernier pilote, le bricolo, Danger Mémoire, ou un ingénieur français commence à recevoir de manière psychique des plans pour créer, alors là c'était un véritable chef-d'œuvre, une espèce d'énergie propre. Alors bon, en plus, dans mes souvenirs, c'est un bouquin qui a été écrit en 91, alors qu'on voit maintenant toutes les centrales nucléaires, tous les trucs et autres. Et en même temps, il y avait une ode, je dirais pas à un certain chauvinisme, mais à essayons d'exister par nous-mêmes, en tant que Français ou en tant qu'Européens, par rapport à d'autres grands blocs comme la Chine ou les États-Unis.
Oui, surtout les États-Unis. J'aime bien rentrer dans l'art des États-Unis.
Oui, ça se remarque.
Tu mets le doigt dessus, là. Les personnages, ils s'imposent à moi, d'abord. Je ne me mets pas devant au bureau en me disant bon, qu'est-ce que je vais imaginer comme personnage. Pas du tout. Il s'impose à moi par le hasard de la vie, par un personnage que je vois dans un film, un personnage qui passe 5 minutes peut-être, mais ou bien dans un bouquin un petit personnage, mais il s'impose à moi d'abord, puis ensuite il se dessine. Je prétends que pour écrire un roman, il faut d'abord une bonne histoire, ensuite un personnage attachant, ensuite un décor que l'on voit, tellement il est bien précisé, le lecteur finit par le voir. Ensuite des personnages secondaires qui sont cocasses, qui vivent, et puis après du talent. Voilà, c'est les 5 conditions pour écrire un bouquin. Mais avec ces 5 conditions-là, n'importe qui peut écrire un bouquin.
Oui. Maintenant, on reste plus qu'à attraper la 5e.
Le fait aussi que je ne vais pas faire de héros systématiques de Superman ou autre, c'est parce que je l'ai constaté dans la vie quelquefois, l'occasion fait l'homme. Tu prends un mec quelconque comme moi par exemple, et puis tu lui imposes de se sortir d'une situation difficile, et il va se surpasser, il va trouver des idées auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. Moi je pense que, comme disent les politiciens quelquefois quand ils sont honnêtes, la fonction fait l'homme. Il y a eu des présidents de la République ou des chefs d'État qui étaient palots au départ et qui, en placés dans des fonctions où ils étaient numéro un, se sont révélés des chefs, des leaders, etc. Truman n'était pas un personnage exceptionnel. Il a été un bon président des États-Unis. Roosevelt, je suis partagé. Il y en a eu d'autres. Ne serait-ce que Staline, c'était jamais autre chose qu'un petit gangster. Parce qu'en Géorgie, quand il avait 20 ans, il braquait des banques. C'était un petit gangster. Et il a vu une possibilité avec la politique de monter pour devenir ce qu'il a été. Il a lancé, on est d'accord ou pas, moi je déteste le stalinisme et le communisme, mais il a quand même fait de son pays une puissance fabuleuse. Et pas en si longtemps que ça, finalement. Il s'est trompé sur le principe, de la société, mais il a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Les moyens non plus sont totalement contestables, mais il a réussi. Donc je pense que le poste, la fonction fait l'homme. Et mes héros, je ne veux pas qu'ils soient des types supérieurs. Ils sont, j'ai l'habitude de dire à mes interlocuteurs, ce sont des gars comme toi et moi, ils ont la trouille, ils ont... c'est pas forcément des bons combattants, c'est pas forcément des... c'est pas tes bons amants. Ils séduisent pas toutes les nanas du monde. Ils sont normaux. Simplement, ils ont été placés dans des circonstances telles qu'il a fallu qu'ils sortent de leur peau, quoi.
D'accord. Alors, un truc qui m'a toujours marqué dans la totalité de tes bouquins, justement, vu qu'on parlait des hommes, parlons un peu des femmes, c'est cette espèce de respect, moi je trouve pas d'autres mots, inné par rapport aux femmes. Comme tu dis, il y a très très peu, voire non, dans mes souvenirs, j'en ai jamais trouvé de scène de galipette. Tu mets jamais en scène une femme objet, comme on peut en retrouver dans pas mal de bouquins de science-fiction ou autre, je m'arrête pas à un genre. On tombe toujours sur des personnages qui ne font pas faire valoir, qui sont les égales finalement des hommes qu'ils rencontrent, avec aussi leurs fêlures, leurs doutes, leurs réussites.
Puis leur tendresse. Mmh. Ouais. J'ai beaucoup de tendresse pour les femmes. Mais je pense qu'elles sont parfaitement les égales des hommes, c'est évident. Mais j'ai pas envie de les utiliser dans des scènes scabreuses. Ça m'intéresse pas. Cette femme-là, la nana qui s'envoie en l'air à tout bout de champ, elle m'intéresse pas. La nana qui m'intéresse, c'est celle qui voue à son mec le même amour que... pas sur une espèce d'amour pur, mais qui respecte son mec et lui la respecte. C'est un personnage toujours très important dans mes bouquins. Dans ma tête, c'est des personnages très importants. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une suite au dernier pilote. Une uchronie. Parce que ça se situe après le passage de la comète de Halley. Donc pour nous, c'est encore le passé. Et c'était une époque post-apocalyptique. Donc, je vais voir ce qui se passe après, quoi. Il y a des personnages féminins. Et pour la première fois, j'ai mis un personnage féminin négatif.
Tiens, c'est assez rare chez toi, effectivement. Mais généralement, t'es plutôt habitué à nous faire des grands salopards.
Ouais. Mais de même, que dans la vie, je pense que quand un couple se sépare, la responsabilité n'est pas d'un seul côté. Et je voulais vraiment bien le montrer. Là, tu as l'impression, sur l'effet brut, que la fille est vraiment carrément une salope et que le personnage principal a été trompé. Et lui-même déclare qu'il pense avoir sa responsabilité. Dans la mesure où personne ne l'a forcé à la choisir, il l'a choisi, ils se sont plantés, il a sa responsabilité. Bon, je ne vais pas faire de comptabilité, à faire des pourcentages, mais il a sa responsabilité. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre aussi. Que je voudrais que le lecteur accepte qu'on est tous responsables. À un degré ou à un autre, on est tous responsables. Sarkozy, on l'a mérité, parce qu'on a été trop con.
Alors, au niveau de tes bouquins, on tombe effectivement donc de 1975 jusqu'à 1996, tu as écrit pour le Fleuve Noir Anticipation. On peut même dire que tu as été, je dirais, un de ses auteurs phares. Et que tes bouquins reviennent très régulièrement, que ce soit la série Caldeterre, la série Urvan, les deux tomes de la 13e génération et beaucoup de one-shots. On parlait du dernier pilote, mais aussi la fresque, le bricolo, le raid infernal. Alors, tout à l'heure, on parlait de Peter Randa. Et on discutait justement sur la, comme tu le dis si bien, Peter Handa nous resservait la même histoire, mais c'était tellement bien fait que le public en redemandait. J'ai envie de dire sur certains trucs, on peut dire que c'est la même chose pour toi, vu qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des traits communs. Il y avait toujours effectivement le héros, le faire valoir, ce qui fait un peu, je dirais, comédie française, voire même film de cap et d'épée. Le héros est, je dirais pas le gentil domestique, mais la personne débrouillarde qui va amener un point de vue différent, qui va mettre un peu de scènes relativement drôles quand l'action ou le moment est assez angoissant, voire même carrément déprimant. Des personnages féminins qui sont là pour révéler finalement ce qu'il y a aussi de tendre chez le baroudeur ou chez le héros qui est complètement dépassé par les événements. Et tu mets systématiquement en scène certaines notions comme la famille, la camaraderie, qu'on retrouve énormément dans tes bouquins de SF militaires, ou plutôt que t'intéresser à l'armée, au système, tu t'intéresses aux êtres humains portant un uniforme et qui sont appelés, comme tu le dis, à faire des choses dégueulasses, mais qu'il faut bien faire. Alors d'où te vient justement cette envie, toujours, de non pas de répéter de la même histoire, mais de rajouter systématiquement un petit truc qui ferait qu'on aura systématiquement l'impression, qu'on aura fini de lire un livre, qu'il y a quelque chose de différent par rapport à l'autre.
D'abord, je voudrais préciser que le faire-valoir, dans la tête, c'est pas du tout un faire-valoir, c'est un ami. Hein. Ils sont toujours liés d'une grande amitié, les deux personnages principaux. C'est vital pour moi, ça. Ça peut pas être un... Même dans les Cal avec un androïde, il y a un sentiment. Cal a des sentiments véritables pour les androïdes. Et il les distingue les uns des autres. Ripoud n'est pas Belém, n'est pas Lou, etc. Ils sont chacun, ils ont la personnalité. Et il y a forcément un sentiment humain entre le personnage principal et ce que tu appelles le faire-valoir. Les nanas, au début, j'aimais pas trop en mettre parce que je savais pas comment les introduire dans l'histoire. J'avais pas envie d'en faire des personnages de bagarreuses ou autres parce que je trouve que c'est pas le lieu. Enfin, c'est pas le lieu. C'est pas ce que j'attends, moi, d'une femme. D'une femme, j'attends beaucoup de tendresse, j'attends beaucoup de patience, qui ne sont pas du tout des qualités secondaires, à mes yeux, non, mais de fidélité surtout. Je ne sais pas pourquoi je dis surtout d'ailleurs. Bon. Mais dans le bouquin que je suis en train de faire, d'ailleurs, la suite du dernier pilote, la fidélité. Enfin, l'infidélité est décrite et ça a pour moi une signification. Ça m'emmerde parce que ça me fait creuser encore dans d'autres trucs. Dans mes histoires, j'essaie toujours de faire, de montrer une espèce d'exemplarité pour les jeunes, leur montrer que il faut être tolérant, il faut être patient, il faut être reconnaissant, il faut respecter les autres, ou respecter les proches, ou ses parents, ou peu importe. Mais il y a autre chose qu'une histoire de bagarre. J'essaie toujours d'y mettre autre chose. Et dans la suite du dernier pilote, il y a un personnage féminin qui est pas très, très respectable. Et je l'ai mise précisément pour montrer que c'est le mauvais côté, que à partir de quelqu'un qui n'est pas méchant en soi, son comportement peut changer et elle peut devenir désagréable et peut devenir désagréable par la force des choses. Il y a une nana qui va trahir le personnage principal. Elle aime le cul, c'est son droit. Je veux aussi montrer ça pour montrer que la vie c'est pas une tarte à la crème et qu'il y a du bon et du mauvais et qu'il faut pas s'arrêter sur le mauvais. Il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le mauvais.
Alors, tant que j'y songe et qu'on parle d'hommes et de femmes, il y avait un bouquin qui m'avait marqué, c'était Le Loupio, ah. Où tu décrivais justement des grandes séquences d'amitié entre un homme et un animal. Où le vieux baroudeur cynique, blasé, allait s'installer sur une petite planète tranquille une fois que la guerre était terminée et tomber sur une bestiole qui est baptisée le Loupio et avec qui il allait finalement louer énormément de liens. Autre truc, mais on en reparlera plus tard, dans ta trilogie Milkra, on va dire Possédant un chat, il y a d'excellents passages sur les matous où au tout début de la trilogie on récupère un chat qui entre dans la famille, pour ainsi dire. Et dans le troisième tome, on retrouve le matou qui s'est installé comme n'importe quel être humain. Alors, plutôt que de poser la question bête, PJ Hero, ami des bêtes, chez toi, finalement, l'amitié, il n'y a pas de différence que ce soit un homme, une femme ou une bête.
Les sentiments.
Voilà. Ce qui compte, c'est justement la profondeur des sentiments.
Il n'y a pas de différence entre... Enfin, il n'y a pas de différence, c'est con de dire ça. Disons qu'il y a peu de différence entre un être vivant et un autre. Que le premier soit un animal et le second un homme, ou pas, ce sont des êtres vivants. C'est ça qui est important, qu'ils soient. La vie d'une manière générale, la vie avec un grand V, je respecte infiniment.
Je vais même dire, si tu me permets, excuse-moi de te couper, on le retrouve aussi dans Le Chineur de l'espace avec une plante, ou on le retrouve dans une série de cales de terre où finalement l'ordinateur a énormément de sentiments.
Tu me fais suer là, tu me fais suer parce que tu mets l'accent sur des choses que j'ai envie de te dire.
Ah, désolé.
Le Loupio, d'abord, le Loupio, il faut savoir que dans les Deux-Sèvres, ma famille paternelle est originaire des Deux-Sèvres. Dans le Marais Poitevin, on appelle un Loupio un petit enfant. Donc le titre Le Loupio, c'est sorti de ma mémoire de mon enfance. Et bon, dans Le Loupio, il y a une scène que j'ai adoré écrire. C'est celle où le petit animal vient pour la première fois auprès du héros qui s'est baigné, je crois, il est sur la plage et il a une jambe artificielle. Et le petit animal vient et flaire la jambe en regardant sans perdre de vue le visage du mec pour veiller au danger. Mais cette fois, il flaire l'odeur de cet inconnu, cet être qu'il ne connaît pas. Et en même temps, il le regarde pour être sûr qu'il ne va pas, avoir des soucis. Cette scène-là, elle m'a beaucoup plu. La scène dans Le Chineur où la plante prend possession de l'ordinateur et où ce gars qui se disait qu'il était seul, qu'il était définitivement seul sur une planète, s'aperçoit que c'est plus vrai. Il est plus seul. Un bouleversement. Et pour moi, je viens de te dire, quand je l'ai écrit, j'étais tellement, tellement ému que j'avais les larmes aux yeux. Parce que je le ressentais, quoi. C'était de la vie. C'était peut-être une plante, mais c'était la vie. Et il était plus seul.
Bonjour monsieur,
t'imagines ce que ça peut être? Bonjour, ça de va. Te retrouver sur une planète seul pour le restant de tes jours. Tu ne verras plus jamais un être humain, tu ne verras plus jamais personne, peut-être un animal, il en savait rien à ce moment-là, mais en tout cas aucun être humain, aucun cerveau, personne avec qui parler. C'est horrible, c'est un truc à se flinguer. Et là, il tombe sur une plante. Il n'aurait jamais pensé à une forme de vie aussi basique qu'une plante, et cette plante lui parle. Ça, c'est pour moi un souvenir fabuleux aussi. Et j'ai toujours besoin de mettre une relation entre l'individu et l'animal. Et dans Mille Crabes, c'est tout bête, l'animal, le petit chat dont tu parles, ça a été mon chat. Dans Le Bricolo, il y a aussi un petit animal qui s'appelle le matelot. Je l'appelle le matelot.
Ah oui, les sommes d'engueulade.
Et en fait, c'est également un chat que j'ai eu à l'époque, que j'appelais le matelot, bien le mousse, et que je passais mon temps à dégrader, selon qu'il faisait des bêtises ou pas. Mais il était important pour moi. On passait des heures ensemble. Quand je travaillais, il était à côté de moi. Aujourd'hui encore, j'ai des chats. J'aime d'ailleurs autant les chiens que les chats, mais je trouve que j'ai des chats. Ils sont à côté de moi quand je travaille. C'est pas, je ne me sers pas d'eux, mais quelquefois, je m'adresse à eux parce que on partage le même moment. Je ne sais pas s'ils sont heureux ou pas, j'en sais rien. Ils sont peut-être là pour prendre le soleil simplement, ou sur le radiateur, tout bêtement. Je sais pas. Ce que je sais, c'est quand je retrouve, quand je trouve leur regard, contrairement à ce qu'on dit, un chat, il peut te regarder droit dans les yeux. Puis hein, longtemps. Et puis il fait passer des choses, hein, son regard. J'aime bien les animaux. Et ça m'amène à un autre souvenir. J'appartiens à une famille de chasseurs. La famille du côté de mon père, dans les Deux-Sèvres, tous les hommes étaient des chasseurs. Donc quand j'avais 16 ans, j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans pour avoir le permis de chasse. Et j'accompagnais ma famille, mon frère, mon oncle, mes oncles, etc. Quand ils allaient chasser, puis je m'occupais des chiens. Et je trouve que j'ai fait la guerre d'Algérie. Et au retour de la guerre d'Algérie, je suis entré en février. Au retour, quand l'été est arrivé, que la saison de chasse a commencé, mon père m'a dit, je te prends ton permis et tu viendras chasser avec nous le week-end. J'ai rien dit, j'ai pas réagi. Puis l'ouverture de la chasse est arrivée et on s'est retrouvés, mon frère et moi, en bout d'une battue. On est complètement à gauche d'une battue, on avançait pour faire partir des perdrix. En fin de matinée, ça avait pétardé partout, ils avaient tué des lapins, ils avaient tué des perdrix. Nous, on n'avait rien vu, mon frère, on n'avait rien vu. Puis, on allait terminer, un vol de ramiers est passé au-dessus de nous. Alors, comme on en avait marre, mon frère et moi, on a levé les fusils, on a lâché les deux coups. Bon, les ramiers sont descendus. Et comme toujours, les gens qui chassent pas, ne savent pas, les bêtes ne sont pas mortes sur le coup. Il faut les achever sur le talon de sa chaussure. C'est pas un geste très agréable à faire, mais qui ne gênait pas autrefois. Et là, je rentrais d'Algérie. J'ai fait le geste. Je les ai tués. Je les ai tués pour abréger la souffrance. Puis j'ai cassé mon fusil. J'ai enlevé les deux étuis des cartouches. J'ai mis le fusil à l'épaule. Et je n'ai plus jamais tiré. Je n'ai plus jamais, depuis, je n'ai plus jamais tué un animal. J'avais eu trop de morts.
Après le fleuve noir, tu es passé à d'autres maisons d'édition, les auditions de l'officine, et depuis quelque temps, on peut dire que tu es devenu un fidèle, voire même un des piliers de Rivière Blanche, ouais, qui est devenu le bon nom justement de ce qu'était le fleuve noir Anticipation. Ouais. Alors j'imagine que pour un auteur comme toi, après le fleuve noir, ça a dû être assez difficile justement de trouver d'autres maisons d'édition qui acceptent de publier ce qu'on peut considérer comme un auteur qui marche au fleuve noir, mais qui pour eux n'est peut-être, n'ayons pas peur du mot, qu'une niche avec un style et des écrits bien particuliers et un public finalement qui pour eux reste relativement restreint.
Il faut d'abord savoir que j'étais viré du fleuve.
Ah d'accord.
On a été un certain nombre à être viré du fleuve parce que la direction de l'époque, les ventes baissaient. Les ventes baissaient, c'était tout simple parce que le directeur littéraire initial avait pris sa retraite. Ce mec avait vraiment du talent, il connaissait parfaitement son métier. C'est lui qui avait fait le fleuve. Il s'appelait Bessières. Et c'est lui qui avait fait le fleuve, ouais, vraiment. Non, il s'appelait Richard. Il n'a pas été suivi de gens qui avaient autant de talent, si bien que les ventes ont baissé. Et on s'est dit que c'est parce qu'il fallait rajeunir la collection, rajeunir les auteurs. Alors ils ont commencé par essayer de recruter des auteurs. Ils ont pris des manuscrits qui ne valaient pas la peine d'être publiés. Et puis ils se sont dit, on vire les anciens. Et j'ai été comme les autres. C'était facile de virer. Il suffisait de ne plus prendre les manuscrits. Hein.
Pas de lettres, pas de coups de fil.
Non, du tout. On ne le dit jamais. Hein. Donc, je me suis retrouvé sans bouquin qui sortait. Et j'ai pris un coup au moral, Maus. Dans les années 98-99, j'ai pris un coup Maus parce que j'aimais bien, quoi. J'aimais bien écrire. Et j'ai rien publié, j'ai rien sorti, je suis resté dans mon coin. Et en 2000, j'ai commencé à écrire Mille Crabes, qui pour moi était une espèce de sommet. J'ai mis beaucoup de moi-même, beaucoup de toute ma vie, des gens que j'aime. J'ai parlé de gens que j'aime, j'ai mis en page des gens que personne ne peut pas connaître, sauf moi. Je sais qu'ils... Bon, les individus savent que ce sont eux, mais c'est tout. Ou des circonstances de ma vie, ou des sentiments que j'ai éprouvés. J'ai mis beaucoup de choses dans ce bouquin. Puis il y a le côté saga aussi de cette famille immense que j'aurais bien aimé connaître. J'ai mis 2 ans à l'école. Il y avait 1600 pages au début. 1600 pages sur un seul sujet, c'est pas facile à faire. Il faut que un jour ou l'autre tu fasses des coupures parce que pour éviter les redites, tu vois, pour éviter les... Et puis je suis resté avec ça sous le bras. J'ai écrit à 60 maisons d'édition dans le monde, d'édition francophone, dans le monde. Tous les éditeurs français, bien entendu, mais des Canadiens, des Belges, des Suisses, même des Sénégalais, c'est-à-dire. Les rares qui ont voulu me répondre me disaient que ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, à ce qu'ils faisaient. Même si quelquefois, comme les Canadiens par exemple, ils étaient assez élogieux, vraiment très gentils. Et puis bon, le temps a passé et je suis tombé sur l'officine qui venait de republier Garenne. Je ne garde pas un souvenir très ému de l'officine. Je ne préfère pas en parler davantage. En tout cas, ça m'a permis de sortir Les Ennemis, qui était le premier bouquin qui est revenu à la surface. Et puis, après l'officine, après Les Ennemis, j'ai été contacté par Philippe Ward, qui démarrait la rivière. Et à partir de là, bon, j'ai retrouvé quelqu'un, un interlocuteur de talent, un gars qui sait ce qu'il veut faire, et puis qui publie ce que j'aimais aussi, quoi. Donc, j'ai commencé à écrire pour lui, en essayant toujours de vendre 1000 crabes. Et c'est resté dans les cartons pendant longtemps. Et puis un jour, sur un salon, je suis tombé sur un éditeur d'Interkeltia, à qui je me souviens que j'ai raconté le bouquin. Ça a duré un moment. On était debout entre les sièges des auteurs qui signaient. Et... à la fin de mon récit, il m'a dit, c'est un type que j'aime beaucoup, le patron, Serval. Il m'a dit qu'il aimait bien, que je lui envoie, et que s'il conservait son opinion, s'il conservait son jugement, il le publierait, quoi qu'il lui en coûte. Je lui ai envoyé, il m'a répondu un manuscrit, et il m'a répondu très très vite, au bout de 3 semaines. En me disant qu'il prenait le risque. Et ça a été effectivement un gros risque, parce qu'il y a mis beaucoup d'argent, qui lui a ensuite manqué pour éditer d'autres choses. Donc, il monterait beaucoup plus vite aujourd'hui si il n'avait pas, sorti un bouquin. En tout cas, il l'a sorti, puis bien sorti. Enfin, les bouquins sont assez beaux. Et tu sais que l'illustration, la couverture, c'est fait par un mec qui est originaire du Maghreb.
Et qui est en Suède ou Norvège, je crois.
Finlande.
Finlande.
Il habite au beau milieu de la Finlande, au milieu des neiges et des steppes ou de ce que tu veux. Mais il a du talent et bah, il vit là-bas.
Non, on a dialogué ensemble par mail, parce qu'à l'origine, je prévoyais de faire une grosse interview pour uchronie.com. Donc j'ai toujours ses mails et il m'a raconté justement toute l'aventure des couvertures. Tu lui avais envoyé le manuscrit, il l'avait lu. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, le premier tome, la couverture est superbe. Et moi, je suis toujours resté bluffé par la couverture du tome 2, le terrible hiver 47, qui a vraiment une synthèse de la totalité du bouquin. Et la troisième est en plus très, très, très belle, très énigmatique, avec justement ce champignon atomique en train de se former au loin, plus les petits dessins. Ça, c'est vrai qu'il a un coup de crayon absolument magnifique. Oui, voilà, on voit finalement, on les imaginait et on arrive à voir les personnages. Non, ça reste un très très bon souvenir d'échange de mails et un personnage, une personne vraiment adorable, très très gentille et qui avait été bluffée par le bouquin en plus.
Ah oui.
Oui, ça je m'en souviens, mais il avait dit bah théoriquement, je l'ai appris petit à petit, pas mal de. Des artistes qui font les couvertures n'ont pas le temps de lire les livres. On leur donne un résumé ou l'éditeur leur explique grosso modo de quoi ça parle. Et lui, finalement, avait lu le bouquin, ça lui avait énormément plu, et du coup, il avait voulu mettre, c'est peut-être pour ça que les couvertures sont si belles, énormément de ce qu'il avait ressenti en le lisant. Pour lui, ça restait finalement, c'était plus qu'un livre. Ça aurait pu être un film ou une grande saga. Et c'est vrai qu'on voit son coup de crayon, on se dit ça aurait même pu être une superbe BD à lire. Mais en soi-même, ça reste, et c'est déjà pas mal, une superbe saga à nul autre. Alors justement, Milkra, bon bah. Comme tu l'as dit, tu as commencé en 2000, tu l'as fini en 2002, ça se voit à la fin du troisième manuscrit. Ça a mis énormément de temps à sortir. Et en même temps, pour ma part, ça reste l'une des œuvres les plus abouties. On a l'impression que toutes tes œuvres auparavant étaient là pour préparer finalement celle-ci. Ton Uchronie, moi je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce qu'il faut bien chercher justement le point de divergence. Alors c'est Napoléon finalement change sa campagne de Russie. Au lieu de partir vers Moscou, dans mes souvenirs, il oblique vers l'Ukraine.
C'est pas totalement idiot, hein.
Oui.
Parce que son valet de chambre, son premier valet de chambre, a déclaré, il a fait des cris de mémoire, et il a déclaré que Napoléon avait pour livre de chevet, un bouquin qui traitait de la fragilité des conquérants, des grands conquérants, et que ça l'avait changé. Le gars, le valet de chambre des cartes, il avait changé à la lecture de ce truc-là. Changer pour changer, pourquoi n'aurait-il pas pu changer à ce point-là? Et à Kiev, il a eu des informations sur. Des informations. Les paysans annoncent toujours, tu sais, quand il fera l'hiver suivant. Et. À Kiev, on lui a dit que l'hiver serait rude. Et il semble que ça l'ait interpellé. Et puis, il a été plus ou moins influencé par ses généraux, par la situation politique, il a continué. Mais il aurait très bien pu. Il a eu une intersection là. Il aurait très bien pu partir vers le sud. Parce que la Kiev, on appelait ça la Kiev à l'époque, de l'Ukraine, venait d'être colonisée par le Tsar. Et les Ukrainois, les Ukrainiens plutôt, ne le portaient pas dans leur cœur, hein, le Tsar. Donc, s'ils avaient vu arriver la grande armée, qui aurait recruté, qui serait dépensé de recruter sur place, en voyant la possibilité de se libérer du Tsar, il est plausible qu'ils aient marché avec Napoléon. C'est pas une vue de l'esprit.
Alors la première question moi qui me vient par rapport à ça, c'est pourquoi Napoléon finalement et pourquoi une uchronie ? Jeu de l'esprit, envie.
Je ne sais foutre de rien. Il faut savoir que l'uchronie, tout le monde ne le sait pas, c'est un philosophe français qui l'a inventé, le principe de l'uchronie, au 19e siècle, en 1830 et quelques. Et c'est une invention purement française. Les Américains n'ont rien à y voir. Alors pour une fois qu'il y a un domaine où les Américains n'ont rien à voir, j'avais bien envie de travailler. Et puis, ça parle. On a tous fait du café du commerce. Moi, si j'étais Hitler, j'aurais fait ça. Et puis, ça aurait été différent après. On est tous plus ou moins tentés de le faire. Donc l'uchronie est finalement quelque chose de très, très humain, très, très véritablement humain dans le fond. Et ça s'est fait sans que j'y prenne garde. Le goût, puisque maintenant, la suite du année pilote que je fais en ce moment, c'est incontestablement une uchronie. Hein. Incontestablement. Ce qu'il y a, c'est que je suis en ce moment très, très gêné. Parce que je me suis cassé la gueule en août, à Pâques. Je me suis brisé l'épaule gauche et depuis 3 jours, on sait que j'ai aussi le poignet droit cassé. Alors, taper à l'ordinateur comme ça, c'est horrible. Donc, je ne peux pas aller aussi vite que je voudrais. Je devrais l'avoir terminé, cette suite du dernier pilote. Mais je ne peux pas. Il y a 4 mois que je travaille très peu. Je fais un feuillet par jour. C'est ridicule.
Alors au niveau de Milkra, pour revenir, ce qui marque, c'est justement d'abord la famille que tu crées, qui est effectivement énorme, où quand on lit la totalité de l'œuvre, on a le sentiment d'avoir un guerre épée uchronique, avec des tonnes et des tonnes de personnages, paysages.
Ça tient debout, hein.
Ah oui, oui, c'est ça qui est fantastique en plus.
À partir d'un mec qui se marie en 1820, en 1940, si tous les membres de la famille sont restés en contact et que la famille a été prolifique et qu'il y a eu plusieurs enfants par famille, ils sont 800. Hein.
Alors, ce qui marque aussi, c'est toutes les petites recherches technologiques que tu as faites. Je pense notamment à l'intégration justement au niveau de l'armée napoléonienne d'un fusil à 2 canons superposés, arme qui existait à l'époque, et où tu as rajouté justement un pistolet à 3 canons pour permettre aux soldats d'avoir une puissance de feu assez conséquente. Plus tu introduis une cartouche un peu plus consistante que ce qu'on faisait, et le fait, effectivement, comme tu le dis, alors désolé de dévoiler un peu de la trame du bouquin. Donc Napoléon va passer l'hiver en Ukraine, et à partir de là, à partir de Domoukin, se dit, mais l'Empire, finalement, en tant que soi, tout empire, entre guillemets, s'écroulera, et proclame des républiques. Tout pays conquis devient une république, a le droit de refaire appel à ses anciennes dynasties. Voilà, c'est... Napoléon a pour ainsi dire une illumination, se rendant compte que de toute manière, son empire en tant que tel ne se rattachant qu'à lui, s'effondrera inévitablement à sa mort, même s'il crée une dynastie. Et devient, pour ainsi dire, le propagateur réel qu'il aurait pu être des idées de la Révolution française. L'accession à la propriété, la démocratie pour tous, mais surtout, comme tu le dis, l'accession, le droit au sol, le fait que les paysans peuvent acheter une terre qui refileront de génération en génération. Et on tombe donc, pour paraphraser De Gaulle, cette grande Europe qu'aurait pu aussi rêver Victor Hugo, de Brest jusqu'au fin fond de la Sibérie, et dont la capitale va venir s'installer petit à petit à Kiev, qui va en devenir le centre. Alors, résultat, vu que c'est disséminé un peu partout, que ce soit dans le premier tome, et je crois qu'il y a aussi encore quelques petites références dans le 2, on voit toute l'histoire de cette Europe, on apprend qu'il y a eu un énorme coup de main donné au Québec, qui est devenu la République du Québec depuis, qui est devenu beaucoup plus énorme que celui qu'on connaît dans notre réalité, que l'intégration de la Labrador et de la Terre-Neuve, qu'il y a des sentiments mitigés avec l'Amérique, ça comme tu le dis, tu te fais toujours énormément plaisir quand il s'agit de rentrer dans l'art des Américains, qu'on a très très bonnes relations avec le Brésil et l'Argentine, qui fait quand même relativement plaisir de voir, pour ainsi dire qu'on reste pas ethnocentré sur l'Europe. Et que si Première Guerre mondiale il y a eu, en fait tu l'appelles la Première Guerre continentale, elle a lieu dans mes souvenirs de 1915 à 20, et c'est avec la Chine. Et la Chine va prendre justement le pendant de l'Allemagne nazie, vu que la victoire de cette Première Guerre va être très imparfaite. Les Américains intervenant, l'Europe est obligée de signer un cessez-le-feu qui va être, un peu comme notre fin de la Première Guerre mondiale, très très mal perçu de part et d'autre. Et pour ainsi dire, plus tard, c'est un peu comme ça qu'Hitler a réussi. On a le sentiment que si les Chinois reviennent, c'est pour finir le boulot. Alors là où c'est fantastique, un trait qui m'a véritablement marqué, qui est l'un des points d'orgue du deuxième tome, c'est la solution finale. La mise en place, justement, que là où les Chinois passent, sans mauvais jeu de mots, tout trépasse. C'est l'extermination pleine et entière des milliers de personnes.
Mais tu sais, il faut savoir que les Chinois sont les Asiatiques de manière générale, sont incroyablement racistes. C'est certainement les gens les plus racistes au monde. Ils considèrent que tous les autres sont des merdes. Je me souviens d'un cocktail à l'ambassade du Vietnam. Du Vietnam où j'étais allé pour Paris Presse il y a très longtemps de ça. Et où on était deux ou trois journalistes français, on avait été pris à partie par 7 ou 8 jeunes étudiants vietnamiens qui nous disaient franchement, comme, tranquillement comme ça, à l'époque où vous marchiez péniblement, nous on avait déjà de la roue, on avait déjà des bœufs qui traînaient nous. On a tout découvert. Vous êtes vraiment de la merde. Ils n'ont pas utilisé le mot, mais ils nous ont fait comprendre qu'on était vraiment de la merde. Ça date, ce que je te dis là, ça date de 63, 64. C'est pas nouveau. Les Asiatiques sont très, très, très racistes. Et il y a une vieille rancune entre la Chine et la Russie. Ça, c'est aussi un fait historique. On ne sait pas très bien où Attila s'est arrêté, où il a commencé, mais il a envahi la Russie. Et la part d'Asiatique en lui, est-ce qu'elle a pris une part sur lui ?
Genghis Khan aussi.
Oui, Genghis Khan aussi, oui.
Parce que c'est vrai que la dynastie mongole en Chine, ça a été... ça a été quelque chose d'un point de vue historique.
Oui, donc ils ont un besoin de territoire, une envie. Ils considèrent que, en fait, toute l'Europe, la totalité du continent européen leur appartient. Et que c'est injuste qu'il y ait des Européens à gauche, à l'ouest, et puis que eux ne soient pas plus, elle n'est pas plus de terre. Si bien que je me suis décidé à chercher le pendant des nazis, les Chinois me sont venus naturellement à l'esprit, parce que c'est vrai, il y a un expansionnisme de la Chine. Aujourd'hui, on assiste à cet expansionnisme dans le monde commercial ou des affaires, mais il est latent depuis des millénaires. Donc, ils étaient les ennemis naturels de l'occidentalisme.
Alors, un fait qui m'a assez amusé, pour ainsi dire, c'est justement la récupération que tu fais au niveau des armes, de la technologie dans cette Seconde Guerre mondiale uchronique, où on se rend compte que les Chinois, manifestement, ont dû coloniser le Japon, ou que les ingénieurs proviennent du Japon, vu que les avions chinois sont appelés, que ce soit les Zéro, les ouais, KI-84 et autres.
Là j'ai fait acte de roman, c'est vrai. J'ai attribué aux Chinois ce que les Japonais ont fait.
De toute façon, par rapport à l'époque, il est toujours difficile d'imaginer un autre chemin technologique, pour ainsi dire. Si l'avion marche, je pense que ça aurait très très bien fonctionné. Et côté européen, c'est assez amusant. Tu t'amuses au début à parler. Il y a un passage terrible au tout début, quand le nouveau président de l'Europe est élu. Au bout d'une nuit de tractations politiques, de magouilles, de règlements de compte, et ça, il s'en doutait un peu, se rend compte de la situation militaire catastrophique, du fait qu'il n'y a pas eu d'investissement, qu'on a très très peu travaillé sur de nouveaux prototypes. Ça résume finalement l'Europe face aux nazis.
Oui, c'est ce qui s'est passé en 1939. Hein. J'ai reproduit ce qui s'est passé.
Oui, voilà, où finalement la drôle de guerre, parlons pour les plus jeunes, s'explique uniquement du côté français par le besoin de créer des armes valables par rapport à ce que faisaient les nazis, ou le fait qu'on a attendu, y compris que la Pologne se fasse bouffer, et quand les nazis sont arrivés, on avait de bons prototypes, on va dire, mais qui n'étaient absolument pas prêts pour être fabriqués à la chaîne. D'où l'achat, un peu comme dans ton livre, de matériel qui n'était pas forcément exceptionnel aux Américains, mais dont on avait terriblement besoin, vu que notre industrie était encore, un peu comme en 14-18, très rurale. On n'avait pas compris justement qu'après la Première Guerre mondiale, une autre guerre pouvait survenir. On n'avait pas vu le fait qu'Hitler, à travers, par exemple, il y a une BD qui en parle, Grand Prix, s'était intéressé énormément au moteur des voitures de course, en partant du principe qu'il voulait qu'on soit capable de créer un moteur qui puisse faire bouger un tank. Donc à partir de là, ça avait été des subventions de l'Allemagne nazie pour, sous couvert de course, activité pacifique s'il en est, réussir à développer des moteurs extrêmement puissants.
Mais il faut savoir, il ne faut pas oublier que les Américains ont fait leur char Sherman, je lis dans le bouquin, mais c'est une copie
du Somua,
du Renault.
Oui.
Du Renault.
Oui, c'est vrai. Renault avait envoyé des plans pour fabriquer un char biplace en 40. Il devait y avoir une usine, de toute façon, au niveau de Savannah, qui devait construire justement des nouveaux chars français.
Et les Panzer, pendant la guerre de 40, les Panzer ont... On parle toujours de leur avance phénoménale, mais on oublie parce que peu de gens l'ont vu, il n'y a plus beaucoup de témoins, qu'il y avait des camions de dépannage à tout bout de champ. Ils avaient des moteurs qui n'ont pas tenu le coup. Les moteurs des Panzer étaient nuls. Les moteurs des Renault étaient très bons. Les moteurs en revanche, les Panzer, les chars allemands avaient des canons efficaces. Alors que nous, sur le char Renault, on avait des canons nuls, des pétoirs. Si bien qu'à chaque fois qu'on s'est heurté, les chars étaient en mouvement, donc les moteurs fonctionnaient. On a pris la pâtée parce qu'avec un armement supérieur...
Les Allemands gardaient un très très mauvais souvenir du B1B. Seul problème, c'était absolument pas un char qui était fait pour une guerre éclair, même si maintenant on relativise le terme de Blitzkrieg. On sait maintenant que ça a été inventé par des journalistes, qu'il y a eu beaucoup de chance entre guillemets au niveau de l'état-major allemand par rapport à 40. C'est-à-dire qu'ils ont eu tout simplement la chance qu'on ait un état-major en face qui, de temps à autre, pouvait comprendre, pouvait voir, mais n'avait absolument pas les moyens de s'opposer efficacement pour une question de doctrine, pour une question de matériel qui n'était pas adapté.
Ils ont eu quelques généraux vraiment remarquables. Vraiment remarquables. En 40 et 45.
Sans des Guderian et des Rommel qui fonçaient dans le tas sans se soucier des conséquences, on peut, sans faire, pour ainsi dire, une autre uchronie, dire que la situation se sera peut-être stabilisée après la conquête de la Belgique. S'ils avaient fait le plan tel qu'ils le prévoyaient à l'origine, qui était tout simplement une réédition de leur plan de 1914. Maintenant, revenons à ton uchronie. Alors, ce qui marque, c'est au niveau... moi, ce qui m'a profondément troublé, même en le relisant il n'y a pas longtemps, c'est finalement l'immensité de ces champs de bataille. Tu parles du Kazakhstan, tu parles de la Russie, tu parles de localités. On a le sentiment, dis-moi si je me trompe, tu devais avoir une carte finalement énorme sur un pan de mur pour tes mouvements de troupes.
Hein. J'avais 5 cartes. J'ai travaillé avec 5 cartes. Ma femme pouvait difficilement atteindre son bureau. Pendant 2 ans, mon bureau était occupé par les meubles. Et 5 cartes qui étaient collées sur du contreplaqué. Et selon que j'utilisais un champ de bataille ou un autre, j'utilisais les cartes et tous les noms qui sont cités sont des noms où effectivement qui existent. Les villes existent bien, la localisation des villes par rapport aux autres, la localisation est exacte, tout ce qui est matériel, tout ce qui est pratique est exact, et tout ce qui est matériel militaire, notamment allemand, et qui est utilisé par les Européens, est exact aussi. Tous les avions de chasse qui sont utilisés par les troupes occidentales, européennes, ont vraiment volé. J'ai commencé à voler assez jeune, en plein air notamment. Et j'avais un copain qui, à Montargis, à Chartres, qui avait volé, qui était originaire de Yougoslavie, ou de tchèque, il était tchèque. Et il avait été engagé par la Wehrmacht, enfin par la Luftwaffe, et il a fait la formation sur Messerschmitt 109. Puis la fin de la guerre est arrivée, et il a été engagé simplement 2 ou 3 fois, mais il n'a jamais eu l'occasion de tirer. Il était numéro 2. Mais ce qu'il m'a raconté, de ses copains, c'est toujours resté dans ma tête et ça m'a beaucoup servi. Parce que c'est pas bidon, c'est vrai, ça se passait comme ça.
Alors justement, comme tu le dis, tu as toute une... on sent toujours ta passion pour l'aviation. Donc j'ai découvert, même si c'était dans l'espace avec le sergent pilote Gurvan, là on passe, pour ainsi dire, d'avion au tout début assez impropre au Focke-Wulf 190. Ouais. On rachète des Spitfire qu'on considère finalement, bon gré mal gré, comme des pialés, pour ainsi dire, en attendant mieux. Les P-38 qui deviennent des véritables bousilleurs, pour ainsi dire, de ce qui est en face.
Des chars, notamment.
Notamment. Et pour passer à la fin de l'aviation, carrément l'envoi de missiles, pour ainsi dire, intercontinentaux, pouvant porter ou non la bombe nucléaire.
Tout ce que je raconte des fusées, les autres, est valable en 45. Comment il s'appelait ?
Von
Braun. Il les avait effectivement dessinés et ses théories datent de 45, pas d'ensuite. Tous les chiffres que je donne dans le bouquin sur les fusées, c'est exact en 45 dans notre monde. Ils étaient sur le papier capables de lancer ces...
Oui, ça, il y a un courant, enfin je ne savais pas dire réellement un courant de pensée, mais un courant dans l'Uchronique s'est toujours intéressé sur la possibilité, si la Seconde Guerre mondiale allait continuer un an de plus. Bon, généralement, ça, c'est assez mitigé, vu que dans certains cas, on peut tomber sur une fascination malsaine par rapport au nazisme, avec, on va dire, ce que les gens ont du mal à comprendre. J'en discutais avec un ami maquettiste, Jean-Christophe Carbonel, passionné de la chose, qui avait fait un dossier en déclarant que le gros problème, c'est qu'entre un prototype sur une planche à dessin et une mise en place effective sur le champ de bataille, les gens ont du mal à piger que même si on était en temps de guerre et qu'on aurait construit assez hâtivement l'appareil, au mieux, dans certains cas, c'est pas 46, c'est 47 ou 48 pour voir un premier appareil sur un truc. Et que c'est pas parce que sur le papier ça paraît bien que ça serait forcément arrivé réellement.
Tu sais, en 40, il y avait un avion de chasse français qui était au niveau de la mise au point du premier prototype. qui s'appelait un l'Arsenal.
Le VG 33.
Apparemment, il aurait été fabuleux. Hein.
J'ai lu jusqu'au VG 39.
Il aurait été du niveau des
C'était des GAC, en fait, on en parle. Les GAC, les avions contreplaqués russes, qui avaient récupéré un moteur français qu'ils ont réussi à booster. Et qu'on en fait un très très bon chasseur. Alors bon, il paraît qu'il y avait des problèmes au niveau de leur colle qui n'étaient pas d'aussi bonne qualité. Et je crois que le gros souci du VG-33, d'après ce que j'ai lu, c'était l'approvisionnement en bois. Vu que c'était un avion entièrement contreplaqué en bois, vu qu'à l'époque, on avait peur qu'il y ait justement, comme pour la Première Guerre mondiale, une coupure d'approvisionnement en matériaux stratégiques. Et je crois qu'on a pas mal, comme d'habitude, on s'y est mis un peu tard pour chercher l'endroit où on pouvait s'approvisionner en bois et les construire. Parce qu'à l'origine, ça devait être une arme, ça préfigurait un peu ce que faisait l'Allemagne nazie à la fin de la guerre, des avions qui n'étaient pas fabriqués intégralement en usine. On pouvait disséminer les lieux de production partout, et c'était des artisans, par exemple, qui pouvaient boucler
ça, c'est
l'avion.
L'évolution réelle qui a eu lieu, mais en 40, on... C'était dans la zone Bordeaux qui était.
Oui, ça avait été nationalisé.
On s'attendait à. Ils prévoyaient d'en faire un avion métallique.
Et c'était
un avion qui était de la classe du Ford Wolf.
Le VB10, je crois.
Il était supérieur au Spitfire. Hein. Supérieur au Dubatine 520, bien entendu. Même au Spitfire, ça va 21, 22, 23. C'était un avion qui, sur le papier, laissait augurer d'une maîtrise de l'air, bien avant les autres.
Le gros problème, je me suis amusé à étudier la question il y a peu de temps. En fait, tout le monde se souvient du vol Amérique-Europe de Lindbergh, qui arrive triomphant au niveau de la Tour Eiffel. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a eu une tentative française dans le sens inverse, France-Amérique, fait par un hydravion, je crois, ou un avion, l'Oiseau Blanc, qui a disparu corps et biens. Qui a disparu corps et biens. On ne sait pas encore bien pourquoi.
On a déclaré il y a quelques années qu'on avait retrouvé son épave au Canada.
Aux alentours du... Oui, on aurait retrouvé quelques éléments, peut-être, je crois, dans la flotte, mais c'est pas encore sur sûr.
On a dit aussi qu'on l'avait trouvé dans la forêt. Il y a toute une légende.
Voilà, il y a toute une légende par rapport à cet avion. Mais ce qui m'a marqué en lisant cette histoire, c'est que moi j'avais lu un article, c'était dans un Sciences et Vie Junior sur les mystères de l'histoire, une double page dessus, et le type disait clairement, soyons honnêtes, si on avait réussi, ça aurait peut-être été le déclic nécessaire pour que les, comment dirais-je, ceux qui fabriquaient les avions se décident enfin à créer des moteurs valables dans des aciers de très bonne qualité. Parce que lorsque le Front Populaire est arrivé, il s'est rendu compte que c'était bordélique au dernier degré au niveau de la création d'appareils. Les usines passaient plus de temps à se tirer dans les pieds qu'à créer des avions valables. Ils ont nationalisé les centres de production, mais ils ont oublié de nationaliser les moteurs. C'est quand l'Allemagne nazie est arrivée, eux, ils avaient fait le pari du Messerschmitt. Nous, on était tellement finalement sur certains prototypes, on n'a jamais su clairement, pour ainsi dire on fabriquera celui-là. Et on met les autres à la trappe.
Les Allemands étaient dans le même cas. Ils ont choisi le Messerschmitt 109 aux dépens d'un autre prototype de chasseur allemand. C'est pas Dornier, c'est pas Junker.
Blumenvoss ?
Je ne sais plus qui c'est. Qui était supérieur au Messerschmitt 109. Et pour des raisons politiques, Hitler a choisi le Messerschmitt 109, alors que l'autre appareil était laissé au lieu. Il était plus rapide, plus maniable. Il était en tout supérieur.
Merci. Alors, par rapport à ton uchronie, donc tu t'es énormément amusé à brasser finalement une guerre entre continents gigantesque. On pourrait même dire que notre Seconde Guerre mondiale fait office de bagarre dans un jardin d'enfants par rapport à ça. Tu l'as conclu donc sur un coup de bluff et l'envoi de missiles et l'utilisation de l'arme nucléaire par l'Europe, qui prend du coup le premier plan par rapport à l'Amérique.
Oui.
Un de mes seuls regrets, c'est que tu inities justement à un moment pas mal de choses par rapport au Brésil, à l'Argentine. Puis petit à petit, ceux-ci disparaissent, on va dire, vers la fin. La majorité de tes personnes s'en sortent. Il y a de très très beaux passages. Je songe notamment à l'histoire du pilote qui se fait abattre à un moment par une escadrille de vétérans chinois et qui tombe dans une dépression. Il va réussir petit à petit à s'en sortir. Je songe au soldat qui est fait prisonnier et qui va découvrir l'enfer des camps de concentration. Finalement,
c'est ça.
À la mission, on découvre que les Chinois enferment les gens dans des mines où ils font sauter les entrées ou les laissent crever d'asphyxie.
Ça coûte cher des munitions. Ça coûtait vachement cher aux Allemands. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé le gaz. Mais ils n'avaient pas pensé aux mines.
Oui, c'est vrai que ta description est encore plus épouvantable finalement.
Les mines, c'est bien plus simple pour détruire des gens en masse.
Et arrivé à la fin, alors là, ça va vraiment être le lecteur qui parle. On a presque envie que tu continues. Tu nous en dises un peu plus sur cette après-guerre, sur cette famille. T'as un très très beau passage à la fin sur les...
Tu titilles le mauvais côté là.
Voilà, sur ces gens qui vont devoir se réinsérer dans la vie civile, réapprendre à communiquer, à se rendre compte qu'il y a des gens autour d'eux qui n'ont pas connu finalement ce qu'ils ont vécu ou qui ne connaissent
qui
que des ondits, qui ont vécu finalement à milieu de... du moins de champs de bataille et autres, où tu vois une très très belle variation sur le plus vieil oncle, comme tu le baptises, de la famille des Clermont, qui meurt de sa belle mort en ayant attendu la fin de la guerre, ce qui fait finalement le passage de flambeau d'une génération à une autre. Et bah oui, j'ai envie de dire titillons ton mauvais penchant pour l'écriture. On a envie d'avoir une exploration, pour ainsi dire, de l'après-guerre.
Moi aussi.
C'est 1600 pages, finalement, c'est pas assez.
Moi, je me suis dit la même chose. J'ai eu envie de faire la suite. Et puis, je me suis découragé devant
l'ampleur de la tâche. Ouais. C'est vrai, quand on arrive au bout des 1600 pages, ça va pas être évident de se dire bon, ça c'est la scène finale, c'est celle par laquelle on résout tout, on donne en même temps un message d'espoir en montrant que derrière toutes les saloperies et les conneries qu'ils ont pu vivre.
Et puis le gars qui a été un héros pur et dur ne devient pas un ex-héros, il devient monsieur tout le monde, il devient un prof.
Oui.
Moi je considère qu'il n'y a que deux métiers qui valent la peine au monde, c'est journaliste et prof.
Que ta femme est l'une et que tu as été l'un. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est quand ça se termine. Non, j'ai dit, c'est rigolo, mais pour avoir lu tous tes bouquins, puis le bouquin termine, là où beaucoup de tes anciens livres commençaient. C'est-à-dire la fin d'une guerre. Que ce soit le Loupio, le Bricolo ou autre, tu boucles la boucle, pour ainsi dire, finalement.
J'ai bien marqué.
PJ Hero termine une guerre, alors que souvent tu racontais l'après-guerre et le bordel que c'était. Je me souviens que ce soit le Bricolo ou d'autres, on avait le sentiment de revenir à la ruée vers l'or avec ces gens qui, n'ayant plus rien, n'ayant plus d'attache, allaient vivre d'autres aventures ailleurs et redécouvraient finalement l'humanité en eux qu'ils avaient été obligés de museler pendant des lustres. C'est le plus bel exemple pour ma part, rester justement le sergent pilote d'Urvan, où les émotions étant interdites, où un pilote ne pouvant même pas avoir sentiment pour une femme pilote, vu qu'en plus, tu préfigurais, pour ainsi dire, pas mal de trucs au niveau de la SF, c'était des gens créés en cuve, qui étaient faits uniquement pour la guerre. Il y avait un sentiment très adolescent, très maladroit au niveau de ce qu'ils pouvaient ressentir pour les autres. Et là, on retrouve finalement cette inadaptation, mais cette peur de se remettre à vivre normalement.
Donc, c'est d'une part, c'est vrai, moi je l'ai ressenti en rentrant d'Algérie. J'ai ressenti personnellement en physique. Et je me suis efforcé pendant tout le bouquin de raconter ce qui s'était passé en Europe dans la Deuxième Guerre mondiale. J'étais tout niais quand les Allemands sont entrés en Europe, pas en Europe, en France du Sud. Et je revois une, je vois le premier véhicule qui rentrait dans Niort. Il y avait un sergent qui était, un sous-officier qui était sur le pare-choc. Qui était sur le pare-choc d'une espèce de camionnette militaire. Il a sorti un pistolet, les gens étaient sur le pas de leur porte. Et il a sorti un pistolet, il a visé comme ça les gens au passage. Il y avait une espèce de morgue, il s'amusait à faire peur, il jouait à faire peur. Mais même si j'étais môme, ça m'a marqué, quoi. J'étais là moi aussi sur le bord de la porte. Et je me suis forcé de raconter le désespoir des Français dans ces bouquins. Puis la façon dont il a fallu qu'ils bossent, voilà, que les Anglais et les Américains bossent pour forger une armée moderne, que tout le monde s'y mette. Marcel, le jour où il est élu, le discours que je lui fais tenir au Sénat, c'est le discours qu'a tenu de Churchill en Angleterre en
1940. Du son de la sueur et des larmes.
Bien sûr. À chaque fois, j'espère que ce sera repéré par des gens, par des lecteurs, mais c'est pas souvent le cas. Là, tu es le seul, dans la fresque. La fresque, je me
rate, ça remonte à loin là pour moi.
La fresque, je me suis inspiré de Horace, la tragédie de Corneille. Mm-hmm. C'est le combat des Horaces, des Horaces et des Curias. Personne ne me l'a jamais dit.
Oh, si j'avais fait lire à ma femme, je pense qu'elle aurait pu te le dire, mais parce que là, comme je le dis toujours en riant, on déclare souvent derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, je déclare que souvent, même tout le temps devant moi, il y a ma femme.
Je suis un petit peu comme toi.
Alors en même temps, tu as un très beau personnage, je pense aux Québécois, qui reste. Un super souvenir long du livre, qu'on adore revoir avec son langage particulier, sa gouaille. Ça fait un peu je suis à la fois le titi parisien et puis le cousin outre-Atlantique qui vient donner un coup de main, que quand même on les a aidés à fonder la République. Ça reste une superbe uchronie, un juste retour des choses, justement.
Oui, j'ai rétabli les choses. Les Américains, ils nous doivent.
Oui, ça tu le dis à un moment, nous doivent leur existence. Si Louis XVI n'avait pas expédié l'armée française là-bas,
Il y a eu cinq missions de secours du gouvernement français, du roi, pour aider les Américains. Il y a dans un film qui est fait à Hollywood, on trouve des gens qui sont intelligents. Il y a une séquence, une espèce de cabaret, tu veux. Un gars raconte une histoire dans une boîte et il dit, puis fait un bide monumental. Il dit, si les Français n'avaient pas été là, aujourd'hui on parlerait le Comanche. Et c'est totalement vrai, putain. C'est totalement vrai. Si on n'avait pas été là, il parlerait le Comanche ou l'Apache.
Il y aurait une espèce de... Ça, il y a eu pas mal d'uchronies américaines qui aiment bien... début, je dirais, il y a la peur. Nazi où les Japonais ont gagné, Philippe K. Dick, le maître du Haut-Château. Mais il y a aussi... Eric Henrien a toujours parlé d'une uchronie, les deux Georges, où en fait, il n'y a pas de révolution américaine. Où il y a un accord entre le roi George et George Washington. Et ce fait qu'au début du XXe siècle, l'Amérique est toujours une colonie britannique et même l'un des plus grands soutiens à la monarchie britannique. Donc, je sais pas, c'est vrai qu'on regarde souvent les républiques, là on sort du cadre de l'interview, on tombe sur, quoi qu'on en dise, une espèce de, pas de regret, mais de fascination pour les anciennes monarchies. Quand on parle de l'or de la République, on va dans les... Là aujourd'hui c'est journée du patrimoine, mais quand on va dans les grands bâtiments datant bien avant la fondation de la République, on voit le poids de l'histoire, pour ainsi dire.
Oui.
Et cette fascination qu'a la République, de toute façon la 5e République de Gaulle, c'est un peu un retour à une espèce de monarchie républicaine. Pour conclure, donc, une uchronie à lire, à relire même, je dirais, un livre de chevet toujours plaisant, malgré sa taille imposante, je vais même dire que la taille n'est pas importante. Et là, en préparant l'interview, j'ai appris que tu continuais finalement à raconter des guerres, vu que tu as réussi, enfin va sortir chez Rivière Blanche, Le gamin de la SPA 36, qui est une histoire sur la Première Guerre mondiale.
Hors-série, oui.
Hors-série, en début 2012.
Oui, c'est l'histoire de... Enfin, c'est une histoire qui se passe dans la chasse, pendant la guerre de 14-18. Et c'est typiquement tout ce qu'on a raconté depuis le début. Depuis bang
9 minutes.
C'est typiquement ce qu'on a raconté depuis le début. Ce mec... Ce héros vient de l'infanterie, je ne vais pas déflorer complètement, hein. Il vient de l'infanterie,
pilote.
Il a eu une trouille monumentale au cours d'une attaque allemande dans le nord, et il est marqué, et il se dit qu'il ne veut plus tuer, il ne veut plus commander, parce qu'il a l'impression d'avoir fait tuer ses hommes. Et il voudrait être volé, devenir observateur, parce que là-haut au moins, il risquerait pas de tuer des gens, tuer ses propres hommes. Et puis en fait, c'est un gars qui va faire toute la guerre avec la peur au ventre. C'est ça, c'est son combat. Son combat, c'est son combat contre lui-même, contre la peur. C'est au-delà, si tu veux, de la chasse, du milieu que je raconte, des combats que je raconte, c'est la vie que tu vas...
C'est la guerre psychologique, le fait finalement qu'on doit aller contre le fait qu'on nous répète toujours que tu es mal.
Oui, puis lui, il a peur.
Et qu'on doit aller contre ça.
Et
lui, il a peur.
Il a la trouille, cette trouille toute bête, toute conne. Il a toi de se faire tout, quoi.
Et tu le retrouves dans le sergent pilote Gervan, dans l'un de tes pilotes qui fait une dépression après, où on se rend compte que c'est pas... C'est vrai que ça, à ce niveau-là, on pourra toujours te remercier, parce que c'est autre chose que pas mal de thrillers américains. Il n'y a jamais de doute, il y a tout se passe bien, et même quand ça se passe mal, de toute façon, on en tirera un mal pour un bien. Mais il n'y a pas toutes les fêlures, tous les gens qui rentraient complètement cassés, qui étaient choqués par ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu. Les Américains s'en rendent compte. J'avais lu le très très bon bouquin Band of Brothers, où ils avaient interrogé des parachutistes survivants de la 101e. Et à la fin du livre, ils avaient fait justement une espèce de petit... qu'est-ce qu'ils étaient devenus après ? Et contrairement à ce qu'on croit, même si les Américains ont été victorieux, on pense qu'il y a beaucoup de dépression par exemple par rapport au Vietnam, mais il y en a eu autant pour la Seconde Guerre mondiale, parce que ça, on tombe sur des gens normaux, qu'on sort d'un cadre de vie ou par moment en dehors de leur petite ville ou de leur coin à la campagne, ils connaissaient rien d'autre. On les précipite en Europe dans une guerre abominable, et ça a dû être la même chose pour des milliers de Français, d'Anglais et autres, et on leur demande à la fin de rentrer chez eux, d'oublier finalement ce qu'ils ont vu et vécu. Un peu comme toi finalement en Algérie.
Oui, c'est ça. En fait, on ne sort jamais indemne d'un combat. Non. Jamais indemne.
La première victime d'une guerre, finalement, c'est l'être humain en tant que tel.
Et quand on fait une guerre à 22 ans, ça te laisse des marques pour la vie, hein. Pour la vie entière. Donc moi c'est ça qui me... Bon, c'est ça que j'essaie de guérir. Dans tous les bouquins, pratiquement, j'essaie de guérir de ça, de ce qu'on a connu, de ce qu'on
a vécu.
Vécu, des trouilles, de ce qu'on a vu, des sentiments crus, enfin. Une guerre, c'est le plus innommable, la chose la plus immense qu'il soit. Il y a un gars qui s'appelle Laurent Well, tu sais, qui vient d'avoir le prix Roddy, qui me qui me disait qu'ils avaient rencontré à la convention à Château d'If la dernière. Il avait rencontré un gars qui lui avait dit qu'il n'aimait pas ce que je faisais parce que j'étais facho. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché, ça. Qu'un mec puisse penser que je suis facho. Je suis un mec de gauche, mais qu'on puisse imaginer que je suis de droite, qu'on puisse l'imaginer. Il paraît qu'il le faisait en partie reposer sur le fait que je parlais beaucoup de l'armée et que beaucoup de mes personnages étaient militaires ou d'anciens militaires. C'est vrai, mais c'est pas pour eux. C'est pas pour autant que je suis droite, quoi. Enfin, mais en revanche, si je parle de l'armée, c'est parce que jusqu'à ma génération, on était tous passés par l'armée. Tous les Français sont passés par l'armée, donc ça nous concernait tous.
Oui, c'est vrai que l'armée reste le grand... J'ai le souvenir d'un de mes profs de fac qui me disait très justement qu'on pouvait ne pas aimer ce que c'était, comme il dit Franz Aoud, ça servait plus à grand chose, mais que ça restait quand même le grand brassage républicain.
Ah oui.
Lui-même étant issu d'une grande école, j'ai pu se souvenir, il formait des espèces de binômes. C'était un très haut intellectuel, pour ainsi dire, avec un ouvrier. Comme il disait, le type à côté de moi, il m'a appris à la semi-godesse, alors je savais même pas ce que c'était. Enfin, et finalement, il s'était emprunté pour un rendu. Moi, je l'aidais au niveau de certains trucs, je lui expliquais et autres. Et lui était plus à même de m'expliquer ce qui était plus technique, remonter les flancs. Il a dit, mine de rien, ça reste une expérience républicaine parce qu'on découvre d'autres gens, d'autres façons de penser.